réplique « L'Europe en proie au populisme » avec Bertrand Badi et Chantal Delsol. Un spectre hante les élites européennes, le spectre du populisme. Je m'apprêtais donc à demander à mes deux invités, la philosophe Chantal Delsol et le politiste Bertrand Badou, ce qu'il faut entendre par là. Le populisme est-il une pathologie démocratique, un fourre-tout conceptuel ou une direction politique légitime et clairement identifiable? Mais l'actualité, ces jours-ci, ne se laisse pas tenir à distance. Elle a fait effraction dans toutes nos conversations. Et elle me contraint de procéder de manière inductive. « Nous sommes le peuple », proclament les gilets jaunes au péage d'autoroute, sur les ronds-points et dans les manifestations partout en France. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le spectre est-il en train de devenir réalité? Peut-on caractériser ce mouvement comme une révolte populiste? Bertrand Badi.
Le peuple, nous a dit Jean-Jacques Rousseau dans une très belle formule, le peuple s'institue. C'est-à-dire, dans la vision classique, le peuple n'existe qu'à travers les institutions qu'il a produites. À partir du moment où il y a pathologie, je dirais à partir du moment où ces institutions perdent le contact avec le peuple, à partir du moment où ces institutions ne fonctionnent plus comme instrument de médiation entre le peuple et ses dirigeants, on est dans une situation donc de désinstitutionnalisation qui est une situation populiste. J'ai dit situation populiste, car pour moi le populisme n'est ni un régime, ni une doctrine, ni une idéologie. Il peut y avoir différents populismes liés à différentes idéologies. C'est une situation de rupture de confiance, de crédibilité, donc d'effondrement des médiations politiques. Et c'est une méthode effectivement assez déroutante par rapport à la théorie classique qui est la nôtre. C'est une méthode qui consiste à se livrer au chef, puisqu'il n'y a plus d'institution médiatrice, à appeler la classe politique, les élites à dégager et à se parer d'un substitut à ces institutions. Ce substitut, c'est l'identité. C'est-à-dire là où les institutions ne fonctionnent plus, là où le politique ne fonctionne plus. N'oublions pas que le politique, c'est l'art de la coexistence entre des individus différents. À partir du moment où cet art de la coexistence ne fonctionne plus, on vise la cité de l'identique, d'où effectivement cet apparentement très fort et constant qu'il y a entre le populisme et l'identitarisme, alors que dans un premier temps, ce lien n'est pas un lien nécessaire, mais il le devient. Les quatre vagues populistes qui se sont succédées dans l'histoire contemporaine ont toujours été, d'une manière ou d'une autre, associées à l'identitarisme, qu'il s'agisse de la fin du 19e siècle, qu'il s'agisse de l'entre-deux-guerres, qu'il s'agisse de ce que le tiers-monde a connu au moment des décolonisations ou le maintenant. À chaque fois, l'identité se substitue aux institutions.
Et donc, vous considérez qu'on peut parler de populisme pour définir ce qui se passe avec les gilets jaunes et vous laisser entendre qu'il s'agit d'un phénomène plutôt inquiétant, parce que dans le livre que vous dirigez, Le retour des populismes, si vous voulez, on se dit, mon Dieu, le pire est peut-être devant nous. Bertrand Badi.
Oui, tout à fait, parce que ceci est corrélé avec une crise inquiétante des institutions, non seulement en France, mais un peu partout dans le monde, et au niveau multiple, c'est-à-dire notamment, ce qui est préoccupant et dont on parle peu, l'effondrement des partis politiques. Les partis politiques en France, en Italie, ailleurs, se sont effondrés à une vitesse très grande, et donc effectivement, on voit dans le discours des Gilets jaunes tous les attributs de ce populisme, c'est-à-dire ce refus des institutions. Il était même question à un moment que le peuple promulgue les lois, on a entendu ça. Et puis, il y a effectivement cette expression identitaire de substitution des migrants que l'on vire d'un camion où ils se cachaient, des injures racistes, xénophobes, homophobes, tout y était, et effectivement... Moi, je pense que c'est inquiétant, oui.
Chantal Delsol.
J'aime pas beaucoup le mot populisme parce que c'est un mot que personne n'assume, donc c'est une injure, en fond. C'est comme ça qu'on décrit son adversaire, mais utilisons-le entre guillemets. Je pense qu'effectivement, ce que nous avons sous les yeux, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui se passe ailleurs et qu'on définit comme du populisme. Ce qui se passe en Italie, en Europe centrale et aussi dans les pays rouges de Trump. À savoir, si on reprend Cicéron, c'est bizarre que Scipion ait vu dans son rêve deux soleils dans le même ciel, mais il aurait mieux valu qu'il voie deux peuples dans la même république. C'est ça qui est le plus inquiétant. À la limite, deux soleils, on pourrait s'en accommoder. Deux peuples dans la même république, c'est justement ce que nous avons ici. À savoir, des gens qui ne se sentent pas de la même culture que l'élite. Parce que la culture de l'élite s'est emballée, parce qu'elle a été très loin très vite, et parce que l'élite ne vit plus avec le peuple, ne vit plus au même endroit. Donc il y a une question de temps, ça avance très vite, il y a une question d'espace. Nous ne vivons plus, je dis nous parce que nous appartenons à l'élite, nous ne vivons plus au même endroit que le peuple. Donc non seulement nous ne le rencontrons plus en allant acheter le pain, mais nous n'avons plus nos enfants au scout ensemble, comme c'était le cas peut-être il y a 20 ou 40 ans. Et qu'est-ce que ces gens reprochent à l'élite ? Puisqu'ils estiment qu'ils ne sont plus de la même culture, ils estiment que l'élite est en train de leur imposer son utopie mondialiste, cosmopolite, son utopie de la santé parfaite, par exemple, et du principe de précaution qui coûte très cher.
Oui, mais Bertrand Badi, on peut dire que, au départ en tout cas, parce qu'il y a des dérives aujourd'hui, tout le monde attend la manifestation avec une très grande inquiétude, le mouvement des Gilets jaunes était composé de ce qu'on pourrait appeler les laissés pour compte de la division internationale du travail. Des gens, en effet, qui ne profitent pas de la nouvelle économie, qui vivent non plus dans la banlieue, mais dans la périphérie, dans le périurbain, ou dans des villes moyennes dont les commerces ont disparu, pour utiliser le vocabulaire de David Goodhart, qui va dans le sens d'ailleurs de Chantal Delsol, c'est la révolte des somewhere contre les anywhere, des gens de quelque part contre les gens de partout. Ce peuple-là se rappelle au bon souvenir des smart métropoles ou de la start-up nation. Mais justement, s'ils se manifestent ainsi, s'ils revêtent des gilets jaunes, c'est qu'ils ont été soit oubliés, soit décriés. Et décriés sous quel nom ? Le nom de populiste. Et n'est-il pas, justement, raisonnable aujourd'hui de faire un début d'autocritique ? Pourquoi avoir dédaigné ces gens, les avoir frappés d'opprobre et avoir attendu si longtemps avant de prendre en considération leur souffrance, comme si seuls souffraient en France les gens qui vivent dans les banlieues, les enfants de l'immigration. Bertrand Badi.
Alors, j'irai même plus loin que vous. Pour une raison très simple, c'est que nous vivons un phénomène qui n'est pas français, qui est mondial, qui est la disparition du social. Le social, depuis quelques années, a tendance à être complètement dilué dans l'économique. De même que le politique, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a peu à peu institué le tout économique, ce qui est une déshumanisation formidable, puisque ça veut dire que l'être humain, l'humain, n'est plus qu'un agent économique, qu'un instrument économique. Et ce que nous payons, et que nous risquons de payer fort cher dans les années à venir, c'est cette disparition du social, ce social que nos sociétés avaient si brillamment inventé dès la fin du 19e siècle, à travers la mise en place de l'état de bien-être, des politiques sociales, à travers aussi ce souffle qui venait de notre grand sociologue Émile Durkheim, qui considérait que la solidarité était une base bases essentielles de la modernité. Ça a été oublié. Ça a été oublié au nom de quoi ? Au nom de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire d'une pensée économique qui se substitue à tout. Elle se substitue au social. Social ne sert à rien pour les ultralibéraux. Et elle se substitue également au politique. C'est-à-dire le politique, c'est la spéculation. L'économie, c'est la science. Et donc, il suffit de suivre la science économique dans son intransigeance. Ceci a abouti au résultat que vous désignez. Mais on ne peut pas se contenter de dire ça, même si c'est absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que il aurait dû y avoir une prise de relais politique. C'est-à-dire, quelle est la fonction des partis ? Quelle est la fonction des idéologies politiques ? D'articuler, de rendre cohérent, de rendre programmatique un cri de détresse. Et ce qui se passe, c'est que le filtre politique ne fonctionne pas du tout, et du coup, on va vers ces pentes ultra-simplificatrices qui associent, et le mal est là, qui associent l'ultra-libéralisme dont souffrent les personnes dont vous parlez tout à l'heure, à la mondialisation, comme si la mondialisation ne pouvait être qu'ultralibérale. Donc, le vrai coupable, c'est le monde. C'est une vieille idée que l'on a entendue dans les autres phases précédentes du populisme et qui a même nourri le fascisme en un temps, c'est-à-dire le cosmopolitisme, la mondialisation, alors qu'on ne comprend pas qu'il peut y avoir une mondialisation solidaire. Moi, personnellement, c'est ça qui me touche. On s'en sortira lorsqu'on comprendra que la mondialisation, c'est pas la folie ultralibérale, mais ce peut être la solidarité, la régulation, le multilatéralisme, comme dit le président de la République, il a raison. Une Europe refondée, il a raison aussi. C'est-à-dire de nouveaux repères qui permettent de réinventer le social.
Chantal Delsol.
Je crois que la volonté de réduire à l'écologie est vraiment insuffisante.
À l'économie, vous voulez dire ?
À l'économie, excusez-moi. C'est au fond un peu quelque chose qui nous reste du marxisme. T'imaginais que c'est juste, sont juste des laissés pour compte de l'économie mondialiste. Bien sûr que ça compte, c'est important, mais je pense que l'essentiel, il est idéologique. Au fond, enfin, j'apparenterais ça à des révolutions conservatrices. Alors évidemment, le mot fait peur, parce que la révolution conservatrice, on sait ce que c'était, et ça a été un peu le prélude au nazisme, quand même, d'une certaine manière. Hein. Bon, mais je pense que ce sont des révolutions anti-modernes qui voudraient récupérer l'identité que la postmodernité leur a donnée. Krasniewski, bon, le président polonais, disait à un moment donné, nous vous parlons mémoire nationale, vous ne répondez taux d'intérêt. Il y a quand même ça. Il y a quand même, je crois, une volonté de spiritualisme, d'identité. Je crois que le combat est davantage idéologique. Et Thomas Frank, d'ailleurs, quand il parle des pauvres aux États-Unis, qui font partie des troupes populistes, dit exactement la même chose. Il dit, c'est très peu un problème économique. Ce sont des gens qui, aux États-Unis, qui luttent contre l'IVG. Alors, vous voyez, c'est pas une affaire économique, au fond.
Oui, et pas sûr que ce soit le combat qu'on ait envie de reprendre.
Mais, non, évidemment, là, c'est un autre problème, ça. C'est un autre problème. J'essaie juste de faire un constat.
Justement, dans la suite de ce que dit Chantal Delsol, je me tourne vers vous, Bertrand Badie. Vous dites, les politiques n'ont pas pris en compte vraiment la réalité du problème posé. Hein, vous avez dit ça. Mais, d'un autre côté, comment peut-on le prendre en compte si on criminalise les revendications identitaires? Il faut s'attacher un instant à cette question de l'identité. Dans son livre sur le populisme, Dominique Régnier dit bien que cette portion du peuple, parce que personne n'est le peuple, il faut le rappeler, le peuple est forcément une pluralité, mais cette portion du peuple, qui se sent relégué et méprisé, etc., ne défend pas simplement un niveau de vie, mais un mode de vie. Un mode de vie, des mœurs, une façon d'être, dont on peut avoir l'impression aujourd'hui que pour toutes sortes de raisons, dont les mutations démographiques que connaît l'Occident, eh bien, ces mœurs sont menacées. Ne faut-il pas commencer par les prendre en compte, au lieu de disqualifier l'identité comme une pathologie dangereuse?
Il n'est pas question de disqualifier l'identité. L'identité fait partie de l'ordinaire du social. L'identité, c'est qui est moi et qui est extérieur à moi. C'est une affirmation que nous avons au niveau individuel des dizaines de fois dans la journée sans même que nous nous en rendions compte quand vous entrez dans votre immeuble, quand vous fréquentez votre quartier, votre université, quand vous avez vos lectures, etc. C'est pas là le problème. Le problème, c'est pas l'identité, c'est l'identitarisme. Qu'est-ce que c'est que l'identitarisme ? C'est la volonté de figer l'identité à un moment donné du temps et à la déclarer totalement indépendante du contexte dans lequel elle s'inscrit. L'identité, rien ne dit dans aucune Bible qu'elle est destinée à être pérenne et figée. L'identité, c'est une perpétuelle réinvention. Le génie humain et le génie social, ils se construisent et reconstruisent chaque jour en fonction de l'évolution du monde. Enfin, tout le monde peut comprendre que l'identité que l'on avait dans la société féodale ne peut plus être conçue de la même manière dans une société mondialisée. Bon, si il y a cette fétichisation de l'identitarisme aujourd'hui parmi toutes les composantes de la situation que nous connaissons, c'est précisément parce que on a privé notamment les personnes les plus faibles, les personnes les plus menacées, on les a privées de social. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et donc, le recours à l'identitarisme apparaît comme une ultime substitution à ce social dont on est... Il faut relire Durkheim. Durkheim a expliqué tout ça. Il l'a expliqué merveilleusement. Et il faut, pardonnez-moi la formule, mais elle est volontiers porteuse d'un clin d'œil, il faut remettre l'identité en marche.
Alors, vous reconnaissez-vous, Chantal Essence, cette critique de l'identitarisme ?
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. La question, c'est que, constamment, l'identité est réduite à l'identitarisme. Constamment, l'identité est réduite à l'essentialisme. Si vous parlez d'identité, immédiatement, vous saute dessus en vous disant, vous êtes essentialiste. Alors que, on cherche une juste mesure, comme vous venez de le dire. Mais jamais la juste mesure n'est mise en avant. Et c'est justement pour cette raison qu'il y a des revendications identitaires. C'est parce que ce que j'appelle la postmodernité, j'en pourrais l'appeler l'humanitarisme, en fait, qui a remplacé l'humanisme, parce que je pense que c'est ça, c'est un autre problème, est en voie d'idéologisation. C'est-à-dire qu'il y a des excès et il y a de l'intolérance. Les identités sont constamment ramenées à l'essentialisme. C'est pour ça qu'il y a un problème. D'où une espèce de guerre des dieux, parce que c'est un retour de la guerre des dieux, entre une postmodernité excessive, grotesque à mon avis, et puis des peuples qui sont excessifs dans l'autre sens et qui réclament des identités dont parfois on peut penser qu'elles sont de l'essentialisme, mais qui dans l'ensemble n'en sont pas. Donc on en est là, on a dit qu'il n'y avait plus d'idéologie, en fait elles sont en train de revenir.
Oui, mais vous allez très loin, Bertrand Badie, dans votre critique de l'identitarisme. Et je voudrais citer maintenant la pétition que vous avez signée, « Citoyens, citoyennes, manifeste pour l'accueil des migrants ». Il y a de très nombreux signataires.
Il y en a qui ont refusé de signer.
Je citerai Étienne Balibar, François Bégodeau, Yacine Bellatar, Ronnie Broman, Hélène Sixou, Annie Ernaux, Alain Mabankou, Philippe Mérieux, Edgar Morin, Thomas Piketty, Lilian Thuram, Clémentine Autain, Esther Benbassa, Olivier Besancenot, Benoît Hamon. Et voici comment commence la pétition. Partout en Europe, l'extrême droite progresse, la passion de l'égalité est supplantée par l'obsession de l'identité. Et les racines des mots contemporains ne sont pas dans les déplacements des êtres humains. Il est illusoire de penser que l'on va pouvoir contenir et a fortiori interrompre les flux migratoires. À vouloir le faire, on finit toujours par être contraint. Au pire, on dresse des murs, la culture produit inéluctablement de la violence.
Donc, c'est beau, hein.
Il s'agit d'ouvrir les frontières, d'abattre les murs, mais cette passion de l'égalité, justement contre l'obsession de l'identité, elle va jusqu'à la disparition de la différence, ou la réduction, ou la marginalisation de la différence entre le citoyen et l'étranger, et... Là, on se demande comment les démocraties pourront survivre. Et là, je citerai, pour finir, Robert Legros, la division de l'humanité en nations est une condition de la vie démocratique, parce que tout discours sur les fins de l'action où la gestion des affaires communes suppose certaines prémices particulières, des accords tacites, des références implicites, des lieux communs, une mémoire commune, un attachement à un même passé. C'est ça l'identité. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'au nom de l'égalité, tout cela doit être balayé. D'où, effectivement, la réaction que l'on appelle populiste et qui se manifeste chez ceux des Gilets jaunes, par exemple, qui protestent contre la signature à venir du pacte de Marrakech sur l'immigration.
Oui, alors, il faut revenir sur plusieurs de ces points, parce que c'est pas une question simple. Il faut surtout pas en faire un slogan. Il faut faire d'abord un peu de sociologie. Il faut observer le monde dans lequel nous sommes. Vous dites qu'on a besoin du passé, mais il ne faut pas non plus toujours se fixer sur le passé pour comprendre notre monde d'aujourd'hui. Deux remarques à propos de celui-ci. Nous sommes, pour la première fois, je dirais, depuis Adam et Ève, dans un monde globalisé, un monde unique, un monde de communication, un monde dans lequel, et ça c'est tout à fait nouveau, tout le monde voit tout le monde. Où enfin, le pauvre voit le riche et le faible voit le fort, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ou 20 ans. C'est-à-dire que les choses vont extrêmement vite. Il y a en Afrique près de 400 millions de smartphones connectés. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de communication et de visibilité qui, évidemment, entretiendra une volonté et un désir de mobilité. C'est évident, parce que justement nous avons changé de calibre. Nous sommes passés d'un monde international à un monde intersocial. Et ça, c'est infiniment plus complexe à gérer, qui fait qu'il faut accepter la migration comme l'un des paramètres, pas le seul, mais l'un des paramètres de notre avenir. C'est pour ça que j'ai signé aussi une tribune écrite seule, que j'avais intitulée « Le migrant et l'avenir du monde ». C'est pas une volonté éthique, c'est tout simplement un constat. Et la vérification empirique que ce constat est exact, c'est que depuis l'an 2000, 50 000 malheureux sont au fond, morts au fond de la Méditerranée, et ça n'a en aucun cas dissuadé les suivants de persister dans ce désir de bouger et de migrer. Ceci est profondément humain. Ce n'est pas de l'humanitarisme, c'est de l'humanisme. Moi, je ne me reconnais que dans cette idée d'humanisme. Alors, au lieu chercher à affiner des moyens répressifs qui n'ont jamais donné de résultats, essayons d'inverser la perspective. Voyons quel profit nous pouvons tirer de cette migration. Et ce questionnement, personne n'ose le faire en face. Et Alain Finkielkraut, il ne s'agit pas d'abolir les frontières, ni même de les ouvrir. Personne n'a jamais dit ça, personne de sérieux, en tout cas moi je ne l'ai jamais dit. Il s'agit de penser la migration dans sa globalité et mettre en place un régime mondial de la migration, comme il y a des régimes mondiaux de l'aviation civile, des communications et de tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire essayer de mettre en place le modèle win-win, c'est-à-dire l'optimum de satisfaction pour les sociétés de départ, les sociétés d'accueil et les migrants eux-mêmes.
Vous êtes convaincu?
Non, pas spécialement, parce que je pense que l'erreur que l'on fait, c'est de considérer que l'immigration est un drame, c'est-à-dire un moment dramatique pendant lequel il faut courir vers le bien, et on sait très bien où il est, et le bien, c'est l'accueil. Non, le problème de l'immigration, c'est pas ça, c'est pas un drame, c'est une tragédie. C'est-à-dire que ce sont deux valeurs affamées qui se battent entre elles. Alors, la première valeur, évidemment, c'est l'accueil, parce que ça, c'est la valeur morale que nous portons en tant que culture. Et la deuxième, c'est la défense de la culture. Parce que la politique, c'est la défense d'une société et d'une culture. Donc, ces deux valeurs affamées se font face. Et à partir de ce moment-là, je pense que si on admet cela, on peut considérer le problème de la migration de façon plus apaisée. Considérer, par exemple, que s'il y a peu de migrants, c'est une richesse. S'il y a beaucoup de migrants, ça peut être un péril. C'est une évidence. Donc on essaye d'intégrer. On intègre les migrants que l'on a. Le problème de la France, c'est pas qu'on en a trop, c'est qu'on les intègre pas. Et même qu'ils se désintègrent à la deuxième génération. C'est ça
oui.
Le problème.
Alors, je reviens sur justement le pacte de Marrakech. Les États signataires du pacte de Marrakech, est-il écrit, ce pacte de l'ONU, reconnaissent qu'à l'heure de la mondialisation, les migrations sont un facteur de prospérité, d'innovation et de développement durable. Mais qu'est-ce qu'on voit? Revenons aux Gilets jaunes. ils habitent, pour un grand nombre d'entre eux, dans la France périphérique. Mais ils n'y ont pas toujours habité, ces lotissements un peu tristes. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont quitté la banlieue, comme l'a montré Christophe Guillouy. Ils ont été chassés de la banlieue par ce que Christophe Guillouy appelle la guerre des yeux. Ils ont perdu la guerre des yeux. Et vous disiez deux peuples tout à l'heure, Chantal Delsol. Mais cette expression m'a rappelé des propos de Georges Bensoussan, celui qui est à l'origine des territoires perdus de la République et plus récemment du livre Une France soumise. Il dit il y a deux peuples en France aujourd'hui. Il y a deux peuples en France aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit avec les Gilets jaunes. C'est la France méprisée par Terra Nova. Une France géniarde, blafarde, etc.
Qui
n'a pas pris le train du progrès. Et c'est pas du tout le peuple des banlieues. Donc, avec un tel constat, peut-on continuer à préconiser l'immigration alors même que elles ne sont, disons, au profit de personne, ni de l'Europe qui a à en souffrir, ni de l'Afrique qui se vide de ses meilleurs éléments. Donc là, il y a vraiment un sujet d'inquiétude qu'on devrait pouvoir aborder, et aborder très vite. La crise des Gilets jaunes, entre autres, le montre.
Alors, Alain Finkielkraut.
Oui, Bertrand Badie.
Je suis d'accord avec vous.
Ah, bah, c'est génial.
Attendez, oui, mais vous allez voir une petite surprise au bout de ma phrase.
Je n'en doute pas.
Que décrivez-vous en ce moment, et avec de justes traits, la situation actuelle? Et la situation actuelle, c'est quoi? C'est l'anti-migration. C'est effectivement le refus d'abord de reconnaître ce phénomène, ce qui crée un poison qui s'appelle la clandestinité. Et d'ailleurs, trop souvent, on confond migrants et clandestins. Moi, ce que je propose, c'est d'aller vers un monde où la migration sera transparente et soutenue et encadrée et normée, et où donc il n'y aura plus de clandestins, et il n'y aura plus ces tensions effroyables que vous décrivez avec justesse. Vous dites que les gouvernements, et Madame Delsol le disait également, sont comptables de la culture. Mais la culture d'un peuple, ce n'est pas une culture figée, empaquetée, cadenassée, et à laquelle personne d'autre n'aurait le droit d'accéder. Si c'est ça, moi je n'en veux pas. Mon père était un immigré. Il a fait ses études au lycée Michelet à Vanves, venant de sa Perse natale, et il a adoré Corneille et Racine, qu'il connaissait infiniment mieux que bien des jeunes bourgeois français de chez Français qui sont actuellement en lycée. Donc la culture, c'est aussi un échange. La culture, c'est aussi un partage.
Mais au départ, c'était pas pour lui un échange. Et ni pour Lévinas, quand il parle de son intégration à la France et la manière dont il a appris le français. C'est-à-dire, on reçoit quelque chose. L'hospitalité, c'était le sens origine, enfin, l'un des sens possibles de l'hospitalité, c'est celui qui accueille, donne ce qu'il a à celui qui arrive, et on a le sentiment qu'avec la société multiculturelle, un autre monde s'instaure, ou effectivement, qui est celui plutôt de l'auberge espagnole. C'est-à-dire, on ne donne rien, chacun apporte ce qu'il a. Et on peut constater que ça ne fonctionne pas, parce que cette société est extrêmement conflictuelle.
Vous décrivez l'échec d'un système. Et ce que, moi, je souhaite dans un monde à venir, c'est un monde dans lequel la migration deviendra le paramètre banal et normal de l'ordre mondial, et à ce moment-là, on sera dans une situation de vrai partage, parce qu'il y aura moins de tensions. Des immigrés qui arrivent dans les pires conditions, qui ont frôlé la mort pour arriver jusque chez nous, qui sont rejetés, bannis, insultés, on leur crache dessus, et vous voudriez qu'il n'y ait pas ces désastreuses, et là on est d'accord, ces désastreuses pulsions multiculturelles et communautarisme. Mais le communautarisme, on le fabrique tous les jours, justement, par notre refus de considérer la migration comme un paramètre nouveau et fécond des relations internationales.
Chantal Delsol.
Autant le droit d'asile est essentiel lorsque des gens fuient des territoires en guerre, où il y a des endroits où on ne peut plus vivre, mais il y a autant, il est à mon avis utopique de prétendre que des bras vont remplacer des bras, parce qu'un homme c'est pas seulement des bras, c'est pas des places dans les usines, c'est pas ça.
On n'en est plus là.
C'était quand même l'argument de Merkel. Hein. Bon, nous avons 1 million de postes de travail, comme si un ouvrier c'était seulement des bras, c'est aussi une culture. Mais justement, le problème, c'est que les gens qui arrivent croient que nous sommes sans culture, donc ils peuvent s'installer avec leur culture, qu'au fond, ici, c'est le règne de l'argent. D'une certaine manière, c'est pas complètement faux. Il y a quand même une grande contradiction, c'est que, par exemple, nous défendons, je dis nous, mais c'est pas moi, mais MeToo et compagnie, et en même temps, nous défendons le multiculturalisme. Oui. Nous tenons quand même à une culture, sinon il y aurait pas, on parlerait pas de MeToo toute la journée. Aimerions vivre dans une culture où les femmes sont traitées comme des femmes musulmanes?
Sauf que MeToo, justement, notamment aux États-Unis, fait de la femme voilée l'emblème de la libération.
Ben oui, mais enfin, il y a quand même une incohérence incroyable.
Oui, oui. Mais Chantal Delsol, vous dites, vous, justement, que les peuples, et il peut s'agir aussi bien des peuples d'Europe centrale que de ceux d'Europe occidentale aujourd'hui, défendent particulièrement l'enracinement et l'identité. Alors, est-ce que vous pouvez aller plus loin et notamment nous dire ce que vous entendez par enracinement? Parce qu'on pense à Barrès, et pensant à Barrès, on oublie Simone Veil.
Oui, moi je pense plutôt à Simone Veil. Voilà. Pourquoi cherchent-ils l'identité? Ils ont l'impression qu'on leur a enlevé en les rendant entièrement abstraits. Comme par exemple lorsqu'il y a eu des soldats morts, au lieu de dire qu'ils sont morts pour la patrie, ils sont morts pour des valeurs abstraites comme la liberté. Bien sûr que c'est important, la liberté, mais on ne peut pas être raccordé uniquement à la liberté abstraite. On est raccordé à la France parce que c'est un pays libre, hein. De la même façon que penser que nous devons être raccordés à un patriotisme constitutionnel, pour reprendre des termes d'Habermas, ça paraît invraisemblable, hein. La patrie, c'est pas uniquement une constitution abstraite.
Et là, c'est Peggy.
La patrie, ce sont des cimetières, ce sont des paysages, ce sont des visages de gens, hein, des visages des paysans qu'on peut rencontrer quand on se promène. Enfin, tout ça, c'est concret. Ce sont des gens qui veulent simplement dire « nous sommes incarnés ». Voilà, c'est tout.
Ce que Peggy appelait le prix d'une patrie charnelle.
Ben voilà, exactement. Voilà.
Et donc, que penser de cette aspiration? Faut-il, au nom justement de ce nouvel avenir du monde, incarné lui par le migrant, la rejeter, la mettre de côté, elle ne va plus dans le sens de l'histoire. Bertrand Badie.
D'abord, moi je ne suis pas d'accord, la patrie ce ne sont pas des cimetières. Voyez, c'est encore cette obsession du passé. La patrie, ce sont des biens communs. C'est beaucoup plus fort.
Oui, bien sûr.
C'est beaucoup plus
fort. Bien sûr, ce sont des biens communs.
Les biens communs, c'est les biens de partage. C'est des biens de partage. La patrie, c'est le partage, n'est-ce pas?
Il faut avoir quelque chose.
Dans un monde mondialisé, le partage a un sens différent de celui qu'il pouvait avoir dans la société féodale, ou même dans l'Europe du 19e siècle, voire dans celle du 20e siècle. Il ne faut jamais perdre de vue que la finalité du social et du politique, c'est quand même l'être humain. C'est pas la patrie, c'est pas la communauté, c'est pas la culture, c'est l'être humain.
Oui,
et l'être humain ne sera jamais autant aujourd'hui, je dis pas postmoderne, je rentre ce mot, je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, l'être humain, il ne ressemble pas à l'être humain d'avant-hier, et ce n'est pas en fonction de l'être humain d'avant-hier que nous allons construire celui de demain.
Alors, Bertrand Badie, je vous cite Chesterton. La tradition, dit-il, est la démocratie des morts. Et les morts doivent avoir leur place. Et vous aimez la sociologie, vous avez fait référence à Durkheim. Alors, voici que Auguste Comte intervient dans notre conversation. La société est composée de plus de morts que de vivants. Une nation est une association entre les morts, les vivants et les êtres à venir. On ne peut pas complètement négliger les morts au profit de l'individu, parce que l'individu est privé de quelque chose. Cela, le romantisme l'a bien montré, la philosophie romantique, etc. L'enracinement comme dit Simone Veil, est un besoin de l'âme humaine. Et on a l'impression que, au nom justement des grands bouleversements d'aujourd'hui, on en fait bon marché, et c'est au détriment de l'âme, peut-être.
D'abord, je n'emploie jamais le terme... Comme je n'emploie pas le terme de postmodernité, je n'emploie pas celui d'individu. Celui d'individu me gêne profondément, parce que justement la société, ce n'est plus l'individu. La société, vous dites, c'est l'association, vous avez raison, mais c'est plus que l'association, dit Maître Durkheim, c'est aussi la solidarité. Et cette solidarité, elle se compose différemment selon les situations. Et penser la solidarité uniquement dans le rapport aux morts ne fait pas sens. Encore une fois, on ne construit pas l'avenir en fonction du passé. Et cette idée de racine, qui est une idée métaphorique, qui est indémontrable sur le plan sociologique. Pourquoi a-t-on besoin? Moi, j'ai pas besoin de racine. Je dois dire, j'ai eu la chance de faire des missions dans 108 pays du monde, et je me sentais toujours chez moi. Pourquoi je me sentais toujours chez moi? Parce que j'arrivais à capter, et ça c'est un formidable message d'espoir, partout, de l'amitié, des préoccupations communes, de la collégialité avec mes collègues africains, américains, asiatiques, européens, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut bâtir le monde. Pas sur les morts, pas sur les racines. Et les racines de gingembre, peut-être, mais au-delà, je ne vois vraiment pas en quoi ce terme pourrait être utile à quelque chose.
Chantal Delsol.
Moi, je pense pas que nous puissions tenir uniquement sur des valeurs universelles, comme par exemple le fait que toute mère tient son enfant de la même façon, quels que soient les continents, comme disait France Quéré. Je pense que ça suffit pas. Nous devons nous bâtir sur une culture qui est chaque fois particulière, sur des mythes. En France, c'est le mythe de l'égalité. Chaque fois que les étudiants se révoltent à la Sorbonne, ils chantent le « ça ira ». Sur le mythe de la liberté, je parlais de MeToo tout à l'heure, même si c'est un mouvement que je trouve excessif, sur des principes fondamentaux. Je pense que si vous avez pu être cosmopolite comme vous l'êtes, c'est parce que vous êtes enraciné dans des principes fondamentaux.
Mais ces principes fondamentaux n'ont pas de nationalité, elles n'ont pas de passeport. Le sentiment de liberté, le sentiment d'égalité, je le trouve dans les sociétés africaines comme je le trouve dans les sociétés européennes. Et justement, ce qui est fort... Pourquoi je défends fortement, et ça va effectivement vous faire réagir, l'hybridation culturelle? C'est parce que l'échange qu'il peut y avoir, à condition que ce soit un échange égal et respectueux, entre la conception africaine, par exemple, de l'égalité et la conception européenne, c'est quelque chose qui est un plus pour les deux partenaires. Et c'est cette hybridation qui nous mettra à l'abri des cauchemars de Monsieur Huntington sur le clash de civilisation. Par l'hybridation, il n'y aura plus de clash de civilisation parce qu'il n'y aura plus ces frontières sanglantes entre ces civilisations.
Oui, mais vous faites bon marché, me semble-t-il, Bertrand Badi, de ce qu'Ortega y Gasset appelle le droit à la continuité historique. On a envie que la France, avec tous les changements qu'elle subit ou même qu'elle provoque, puisse encore ressembler à elle-même. C'est peut-être ce qui se manifeste quand les gilets jaunes justement brandissent le drapeau tricolore et quand certains d'entre eux
ou bretons
chantent la Marseillaise. Oui, vous avez raison, chantent la Marseillaise en essayant de protéger la flamme du soldat inconnu lors de la manifestation de samedi dernier aux Champs-Élysées,
tout en la profanant.
Mais c'est pas les mêmes qui la profanaient, justement.
Ça, on sait pas.
Alors, mais là, je voudrais en venir.
Oui, mais vous permettez, je réponds quand même sur ce point. Qu'il soit bien clair entre nous qu'il ne s'agit pas du tout d'éteindre la culture de la France. D'abord, elle ne s'éteint pas, la culture de la France. Moi, c'est avec énormément de plaisir que je pourrais vous déclamer Corneille, n'est-ce pas? Et c'est ça, la culture de la France éternelle, elle est là. Qui voulez-vous qu'il soit capable d'éteindre Corneille ou Racine? Non, jamais. Bon, mais en revanche, si on ajoute à Corneille et Racine le lot de notre 21e siècle et notre 3e millénaire, eh bien on sera plus fort, on sera plus grand et on sera plus respecté.
Qui voulez-vous qui soit capable d'éteindre Corneille? C'était le but inavoué ou ostentatoire d'un certain nombre de réformes de l'école qui se sont arrêtées aujourd'hui pour une refondation dont on verra si elle peut porter ses fruits. Mais je voudrais vous interroger sur la dérive violente de ce mouvement. Que s'est-il passé? Pourquoi?
Répondre là-dessus, sur la question de tout à l'heure. Je pourrais répondre aussi.
Alors, allez, répondez sur la question de tout à l'heure et je poserai ça.
Huntington, on l'a rendu excessif en disant qu'il voulait la guerre. C'est pas vrai. Il a simplement dit qu'il y avait des cultures différentes, ce qui est quand même une évidence.
Non, c'est pas évident.
Justement, pour moi, c'est évident. Je ne veux pas d'hybridation avec un lieu où les femmes sont enfermées, et je ne veux pas que mes petites filles soient mariées à 10 ans ou à 12 ans, comme dans certains pays. Donc, moi, je ne veux pas d'hybridation avec ça. Je ne veux pas d'hybridation avec le document numéro 9 de la Chine, où on traite de nihilisme historique quelque chose comme juste Hérodote. On dit la vérité. Je ne veux pas d'hybridation avec ça. Donc, moi, je ne veux pas d'un immense un mélange de tout. Je tiens à ma culture.
Bon, très bien. Cette précision étant faite, et elle était indispensable,
oui,
en effet, Chantal Delsol.
Il était un temps, Alain Finkielkraut et Chantal Delsol, il était un temps où ce négationnisme était le nôtre lorsque nous arrivions dans des cultures qui ne nous ressemblaient pas. Je dis match nul et abolissons les négationnismes de part et d'autre.
On ne peut pas vraiment parler
faut
de
voir en
négationnisme.
Quel terme on parle de l'islam.
Je veux dire, s'interroger sur le Coran, le rapport entre l'islamisme et l'islam et la religion, ça ne relève pas du négationnisme. Les réponses peuvent être différentes. En tout cas, là, je voudrais en revenir à cette dérive violente. Ce mouvement des Gilets jaunes, et il est apparu, comme je l'ai dit, comme une sorte de révolte contre le mépris et le déni des classes populaires et des classes moyennes, vivant un état d'insécurité économique et d'insécurité culturelle. Et on voit aujourd'hui que ça tourne mal. Les Gilets jaunes modérés sont menacés de mort quand ils veulent aller parler avec les membres du gouvernement, des députés. Et Édouard Philippe rappelait l'autre jour à la télévision que des manifestants furieux au Puy-en-Velay ont voulu incendier la préfecture et ont dit aux fonctionnaires qui se trouvaient à l'intérieur qu'ils allaient brûler comme des porcs. Et les policiers sont attaqués, alors qu'au départ du mouvement, il y avait une solidarité affichée par les Gilets jaunes avec les policiers sur le thème « Nous sommes dans le même bateau ». Alors, que s'est-il passé? Comment expliquez-vous cette dérive ou peut-être ce tournant, Chantal Delsol?
J'ai parlé tout à l'heure d'une nouvelle guerre des dieux. Je pense qu'on en est là. Vous savez que dès qu'on parle de ses adversaires avec des mots d'animaux ou avec des mots de maladie, c'est qu'on les traite comme des ennemis. Vous parlez de porc, ils ont parlé de porc. Macron a dit la lèpre comme une populiste. C'est au fond c'est ça. On est dans une bagarre entre deux ennemis. Et il faut préciser que les gens qui représentent ici les Gilets jaunes, mais ça peut être autre chose ailleurs, sont des gens populaires qui ont certainement moins de culture que les élites, donc moins de mots. Donc tape davantage, parce que moins on a de mots et plus on tape, et on assiste ici à ce que j'appelle une opinion furieuse, une espèce de bacchanal des concepts, et effectivement on risque la violence davantage. De l'autre côté, il y a une violence de mots. Le panier de gens déplorables de Clinton, c'est la violence des mots, parce que les élites ont plus de mots que de points.
Mais c'est pas tout à fait la même. Bertrand Badi, quelle est votre interprétation de cette éruption?
Alors, vous avez raison, on assiste à une escalade de la violence qui est absolument fantastique et qui se trouve des deux côtés. Je ne sais pas si vous avez vu ces images effrayantes à Mantes-la-Jolie de la police humiliant des gamins, un peu comme la police d'Assad le faisait à Dera au début.
Enfin, c'est pas tout à fait du même ordre.
La volonté d'humilier des jeunes enfants, elle est en tous les cas de la même famille.
Et en même temps, tous ces lycéens qui s'alignent sur le modèle des révoltes de banlieue, qui brûlent des voitures, qui vont casser les vitres des lycées au nom d'une révolte insensée contre le Parcoursup, contre la réforme du bac, donc pour le maintien de l'enseignement de l'ignorance et l'abolition de toute forme de sélection, ça fait peur. Et la jonction de cette révolte délirante avec les Gilets jaunes, c'est l'apothéose du non-sens.
Oui, mais la force d'une démocratie, c'est de savoir traiter autrement, même si ce sont des délinquants. Je ne sais pas si chacun de ces enfants était responsable de ces violences que vous décrivez, mais même si c'était le cas...
Ils ont tous été relâchés.
Oui, mais enfin, il faut voir l'humiliation qu'ils ont subie, et qui est d'ailleurs une très mauvaise politique, parce que ça va, à force de diffuser ces images, évidemment, aggraver les choses, et on n'en a pas besoin. Ceci dit, donc, vous avez raison, il y a une violence généralisée.
Moi, pardon de revenir toujours au même point, je suis un durkheimien convaincu, plus je vieillis, plus je le suis, et je pense que la violence, c'est toujours une pathologie. C'est-à-dire, c'est le signe d'une désorganisation, d'une crise extrêmement profonde dans nos sociétés, qui est liée à la décrédibilisation des institutions. Mais il faut voir la chose dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a une décrédibilisation des institutions de la part des mouvements sociaux qui se développent. Il y en a aussi de la part des élites, c'est-à-dire les élites elles-mêmes ne croient plus en leurs institutions. Et ça, c'est pas suffisamment dit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de populiste, même dans les élites qui nous dirigent, une sorte de marginalisation des institutions. Enfin, j'ai entendu quelqu'un que je ne nommerai pas, qui était un proche de Nicolas Sarkozy, oser dire à la radio que l'état de droit, on peut très bien le réformer, ça dépend du Parlement, comme si la notion d'état de droit dépendait d'un vote du Parlement. C'est quand même très grave, on ne sait plus ce que sont les vraies institutions dans nos sociétés. C'est extraordinairement dangereux.
Oui, mais moi je pense, en voyant cette violence, je pense à deux auteurs, à Victor Hugo et curieusement à Sartre. Victor Hugo, le peuple se fausse fidélité à lui-même, la foule est traître au peuple. On avait un mouvement d'une partie du peuple, et tout d'un coup, la foule émeutière a remplacé le peuple, et un nombre malheureusement trop important de gilets jaunes se reconnaît dans cette foule déchaînée, dans cette foule émeutière, et c'est terrible, parce que on a assisté samedi dernier à un véritable déchaînement de barbarie. Mais justement, ça fait penser à la critique de la raison dialectique, où Sartre décrit le groupe en fusion. Et lui, il le fait de manière positive, élogieuse. Le groupe qui se produit lui-même comme pression sur ses membres. Il parle de la liberté commune comme une sorte de terreur. Il décrit la fraternité terreur, c'est-à-dire que le sécessionniste il est un traître, un déserteur, et c'est d'où la situation faite aux modérés. Les modérés sont des dégonflés, et on voit aujourd'hui les enragés prendre le pouvoir au détriment des modérés, parce que on assiste à un phénomène de groupe en fusion. C'est d'abord la beauté d'une sorte d'élan fraternel, des gens qui surmontent la solitude pavillonnaire, qui ont le bonheur d'agir ensemble, mais la fraternité, elle a aussi ce revers noir, très bien décrit par Sartre, sauf encore une fois que lui, il fait l'apologie de la foule. Mais c'est terrible de voir cela, parce que les déplorables, au moment même où ils avaient l'occasion de se réhabiliter à leurs yeux et aux yeux de l'opinion, risquent de sombrer dans un nouveau discrédit pour n'avoir pas su, justement, prendre les distances nécessaires avec la foule. Chantal Delsol.
Je pense qu'il faut peut-être, je ne sais pas si la violence est une pathologie, une certaine manière peut-être, oui. Il faut replacer ça dans un contexte français. La France est un pays violent, à mon avis, parce que c'est un pays despotique. Tous les pays despotiques sont violents, parce que les sujets, n'ayant d'autre recours que d'attendre l'État, sont tentés de temps en temps de se révolter.
Pays despotique.
Ah oui, la France est un pays
despotique. C'est quand même assez fort.
La France est un pays despotique, oui, parce que c'est l'État qui fait tout. Mais on despote au sens très philosophique du terme. Hein. Celui qui fait tout, celui qui donne tout, le père. Hein.
Oui, c'est ça.
Le père des familles, vous voyez. Éclairé ou pas.
Et il existe des contre-pouvoirs en France.
Qui sont de plus en plus critiqués. En France, il y a on a toujours considéré que la violence était un bienfait. On n'a jamais récusé les violences révolutionnaires, parce que justement on pense qu'elles ont apporté des bonnes choses, ce qui est vrai d'une certaine manière. En même temps, vous dites, à juste titre, on croit de moins en moins aux institutions. Mais vous savez, nous avons une élite qui n'est pas démocratique. Moi, j'ai jamais eu l'impression que mes amis étaient des démocrates. Pas du tout. Les Français ne sont pas démocrates, au fond. La démocratie est très faible en France. Il faut replacer ça dans un contexte culturel.
Oui, mais quand même, Macron, despote, je ne sais pas si... Non, même au sens philosophique.
Au sens philosophique, oui, mais ce que je veux dire.
En tout cas, Jupiter, c'était la verticalité. Et la verticalité, aujourd'hui, se heurte à une horizontalité furieuse. Le mouvement des Gilets jaunes refuse toute forme de représentation, même en son propre sein, ce qui fait que les Gilets jaunes s'entre-dévorent, et on voit naître... à travers lui, et ça je vous interrogerai pour finir là-dessus, Bertrand Badie, un populisme des réseaux sociaux. Alors dans l'histoire du populisme, quel rôle, selon vous, jouent aujourd'hui les réseaux sociaux ? parce qu'ils abolissent les frontières, mais à l'intérieur des frontières, il y a une sorte d'ébullition et de violence, de haine, si vous voulez, incontrôlée et incontrôlable.
Alors, vous savez qu'il y a une constante dans l'histoire du populisme, les quatre vagues de populisme que je distinguais tout à l'heure, et cette constante, c'est cette part essentielle donnée à la communication, qui prend toutes sortes de formes, ça peut être la propagande, ça peut être la mobilisation de masse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est un phénomène qu'on avait déjà perçu dans le contexte des printemps arabes, cette communication s'est trouvée considérablement améliorée dans ses capacités à travers les réseaux sociaux, et ces réseaux sociaux qui, par définition, s'affranchissent de toute hiérarchie. Le réseau social, nous sommes en pleine horizontalité, pour reprendre ce que vous dites. On est aussi en pleine imprévisibilité, puisque le réseau social, c'est le contraire de l'organisation, donc de la prévisibilité des comportements. On ne sait pas demain où vont se produire les gilets jaunes, n'est-ce pas ? Troisièmement, c'est une libération du langage qui me préoccupe. C'est-à-dire que on se permet aujourd'hui de dire des choses sous couvert d'anonymat. C'est ça qui est scandaleux, qu'on ne disait pas autrefois. Quand j'ai fait ma tribune et que je me suis fait traiter de cosmopolite circoncis, je veux dire, jamais il y a 20 ans, quelqu'un aurait osé s'exprimer ainsi à titre argumentaire, n'est-ce pas ? Donc, ce qui me fait peur, c'est que la dérive des réseaux sociaux conduisent à une réinvention du fascisme, c'est-à-dire effectivement un vocabulaire qui est exclusivement destiné à anéantir l'autre. Anéantir l'autre et dans toutes les figures de l'autre, c'est-à-dire l'autre comme personne, mais l'autre comme idée, l'autre comme vision, l'autre comme culture. Si nos gouvernements ne réglementent pas les réseaux sociaux et notamment n'interdisent pas l'anonymat, nous allons effectivement faire une catastrophe.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est l'irresponsabilité diffusée partout et qui permet tout. Donc, si on ne signe pas, on est irresponsable. Donc, on fait n'importe quoi. On exprime ses émotions les plus folles. On ne se restreint plus et puis on dit n'importe quoi. Non, c'est très grave.
Donc, nous terminerons sur ce point d'accord et sur cette inquiétude commune. Merci beaucoup. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Chantal Delsol, Populisme, les demeurés de l'histoire. Le livre est publié aux éditions du Rocher, et au mois de mai, vous nous annoncez une enquête sur la démocratie que vous avez dirigée et qui va être publiée aux éditions du CERF. Bertrand Badi, vous avez dirigé le retour des populismes à la découverte. Avec Dominique Vidal, oui, et en effet, et vous publiez également à la découverte « Quand le Sud réinvente le monde, un essai sur la puissance de la faiblesse ». La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Philosophie des droits de l'homme ». Mes invités seront Grégor Pupink et Frédéric Worms. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Marie le peintre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.